Est-ce que vous avez déjà entendu parler du syndrome de l'X fragile? Moi, jamais. Enfin, jusqu'à ce que ma recherchiste Christiane Campagna m'en parle. Et celle qui va nous éclairer certainement à ce sujet ce matin s'appelle Élisabeth Dupuis. Elle est présidente de l'association X fragile Québec. Bonjour, Madame Dupuis.
Bonjour, Madame.
Merci d'être avec nous. Alors, dites-nous ce qu'est le syndrome du X fragile.
Alors, le syndrome du X fragile est une condition qui résulte d'une anomalie au niveau génétique. Sur le chromosome X, il y a un gène qui subit une mutation d'une génération à l'autre. Et cette mutation-là provoque différents symptômes et on peut parler, parce qu'il y a une atteinte au niveau cognitif, au niveau du cerveau, et on peut parler de déficience intellectuelle chez la plupart des personnes atteintes. Un tiers des personnes atteintes vont être autistes. Il va y avoir différents symptômes qui sont de l'ordre cognitif, physique et comportemental. Alors, c'est assez large.
Oui. Alors, si je vous comprends bien, c'est une condition héréditaire?
Oui, c'est héréditaire. Alors, par exemple, une personne peut être prémutée. Alors, un parent peut être porteur d'une prémutation. Alors, cette personne-là ne va pas être au courant parce qu'il n'y a pas vraiment de signe extérieur qui indique à une personne qu'elle a une prémutation. Il y a des cas particuliers. Et donc, la mère, par exemple, qui a une prémutation, peut transmettre, une chance sur deux de transmettre un de ses chromosomes X qui est muté, sur laquelle il y a une prémutation, à un de ses enfants. Alors, c'est quand l'enfant commence vers peut-être un peu avant l'âge de 2 ans, mais les parents vont s'apercevoir qu'il y a certaines difficultés au point de vue moteur, par exemple, retard à la marche. Alors, c'est à ce moment-là que les gens commencent à investiguer, puis qu'il peut avoir un test qui va être fait. Alors, c'est héréditaire, c'est une prémutation qui, parce que le gène est muté, il y a une répétition qui augmente. Je peux pas vous dire exactement à quel niveau, à quel moment dans la conception, mais quand la mère transmet à son enfant, il y a une répétition du gène, la mutation s'aggrave à ce moment-là. Par exemple, un homme peut être aussi porteur, et le porteur, comme étant porteur, il va pouvoir transmettre la prémutation à sa fille, uniquement à sa fille, parce qu'il ne va pas transmettre un chromosome X à son garçon, c'est pas possible. Alors, à ce moment-là, le père va transmettre à sa fille la prémutation telle qu'elle. Et là, la fille qui a un enfant a une chance sur deux de transmettre la prémutation qui peut s'aggraver. Alors, ce qui peut arriver dans certaines familles, on s'aperçoit que le petit-fils, par exemple, a un retard à la marche, un retard global de développement vers l'âge de 2 ans. Et puis là, la famille va investiguer, va trouver, il va avoir un test génétique, puis il va avoir aussi des recherches pour voir si d'autres personnes dans la famille pourraient avoir aussi être porteurs de la prémutation ou de la mutation complète.
Et Madame Dupuis, quelle en est la prévalence?
Alors, on parle environ, chez les hommes, on parle de 1 cas sur 4 000, et chez les femmes, on parle de 1 cas sur 8 000.
OK. Et dans la documentation que j'ai lue, on indique que le syndrome du X fragile est la cause la plus répandue de déficience intellectuelle. Et j'étais étonnée parce que on en entend beaucoup moins parler si on compare, par exemple, à la trisomie 21.
Effectivement. Bien, en fait, c'est le syndrome du X fragile, on peut dire que c'est la cause héréditaire la plus fréquente de la déficience intellectuelle. Alors, okay. La trisomie 21 est une mutation. Alors, il y a trois chromosomes 21, mm-hmm. mais c'est pas la même. Les causes ne sont pas les mêmes. La trisomie 21, on connaît ça beaucoup plus parce que aussi il y a des traits physiques qui sont plus communs que l'on reconnaît. Le syndrome du X fragile, il peut avoir des traits physiques, mais qui vont être plus apparents au fur et à mesure que l'enfant grandit. Puis ça paraît plutôt chez les garçons que chez les filles. Alors, ça peut être des grandes oreilles, un front proéminent, le menton également. Alors, c'est pour ça, je pense que ça, c'est une des raisons pourquoi c'est moins connu, le syndrome du X fragile, parce que c'est moins visible.
D'accord. Et comment se fait le diagnostic, là, si on se doute de quelque chose? C'est par un test d'ADN, j'imagine?
Oui, exactement. C'est un test, c'est une prise de sang, tout simplement, qui peut être demandée par le médecin traitant. Et ça se fait à travers les différents hôpitaux là, au Québec.
Mm-hmm. Vous parlez tantôt des parents qui peuvent être porteurs du gène sans avoir le syndrome. Est-ce qu'ils ont quand même des problèmes de santé, ces personnes-là?
Oui, effectivement, il peut y avoir des problèmes de santé. Par exemple, il y a deux syndromes, deux conditions qui sont reliées au syndrome du X fragile chez les personnes porteurs de la prémutation. Fait que chez les femmes, on peut parler de l'insuffisance ovarienne chez les personnes prémutées. Ça veut dire une ménopause précoce avant l'âge de 40 ans. Ça peut être aussi l'infertilité, donc dysfonctionnement ovarien. Et donc, ça, c'est une des situations. Puis mm-hmm. l'autre situation, c'est au niveau, ça touche toutes les femmes. Donc, ça, le premier, ça touche les femmes, évidemment. Puis le deuxième, ça peut toucher surtout les hommes. On parle de ataxie-tremblement. Alors, c'est les hommes de plus de 50 ans. Chez les personnes porteurs de la prémutation, les hommes, le taux est à peu près de 30 % des hommes qui pourraient développer des problèmes au niveau de tremblement, ataxie et démence. Alors, c'est un déclin cognitif qui peut se faire sur 5 à 25 ans. Là.
Okay.
Alors, ça, c'est quand même des causes importantes.
Liées au fait de porter le gène. Là.
Exactement.
Et est-ce que cette prémutation-là est détectable par des tests génétiques?
Oui, également. Oui.
Okay.
Alors, quand, par exemple, un enfant reçoit le diagnostic du syndrome du X fragile, bien là, il y a les parents qui vont être aussi appelés à faire un test génétique. Et là, c'est comme ça qu'ils déterminent si... des fois, c'est assez clair là, d'où ça vient, là, mais c'est la mère. Mais c'est comme ça qu'ils peuvent déterminer donc la mère, puis ensuite, ils peuvent vérifier auprès des grands-parents, la fratrie, etc., par des tests génétiques.
Qu'est-ce qui peut être fait pour aider les enfants qui vivent avec le syndrome du X fragile?
Alors, un enfant qui reçoit le diagnostic, il y a différentes choses en termes de réadaptation, de suivi au niveau de l'orthophonie, pour aider au niveau du langage, au niveau de la motricité fine et motricité globale, ça va être la physiothérapie, l'ergothérapie, aussi de l'aide au niveau de l'éducation spécialisée, des fois pour travailler certaines choses au niveau du comportement, au niveau aussi des habiletés sociales, et ensuite psychoéducation, médicaments. Aussi, parce que là, on parle vraiment des impacts très variables. Mm-hmm. Si c'est une fille ou un garçon, et le niveau aussi de la mutation peut jouer également. Parce que les filles n'ont pas toutes une déficience intellectuelle. Et si elles ont une déficience intellectuelle, elle est beaucoup plus légère que les garçons. Alors, les impacts sont beaucoup plus grands chez les garçons. Et le soutien, la prise en charge va être probablement différente chez les garçons que chez les filles. Et puis là, tout le travail au niveau scolaire va être aussi en fonction des besoins de l'enfant.
Et souvent, paraît-il, le syndrome X fragile est confondu avec l'autisme.
Ben, c'est confondu. Il y a un tiers des personnes qui ont le syndrome du X fragile qui sont également autistes.
D'accord.
Alors, c'est quand même une grande proportion et les traits peuvent être quand même différents au niveau de l'autisme qu'on connaît en général. Mais c'est quand même, un traitement qui peut être adapté à l'enfant que le X fragile, mais en fonction des principes de l'autisme, habituellement des traitements qui peuvent être faits.
Alors, il y a des difficultés, je lisais retard de langage ou façon inhabituelle de parler, mais côté point fort, bonne aptitude verbale, je me disais, on dirait que c'est un peu contradictoire.
Oui, des bonnes aptitudes verbales, effectivement. Chez certains qui peuvent faire peut-être de l'écolalie.
Mais, c'est quoi ça, l'écolalie?
Ben, c'est le fait de répéter à la fin d'une phrase, par exemple, les mêmes mots, répéter des phrases en continu. Mais il y a des enfants qui peuvent très bien s'exprimer. Il va avoir une certaine anxiété sociale, mais en même temps, ils sont très sociables. Il y a des contradictions peut-être, mais c'est très étonnant la variété des capacités qui peuvent se développer de chacun de ces enfants-là. Il y a des enfants qui ne seront pas en mesure d'apprendre à faire du vélo, mais il y en a qui vont le faire. Il y en a qui vont apprendre à faire du ski alpin, à monter à cheval. Il y en a qui vont avoir peur des chevaux. Il y en a qui vont pas apprendre à lire et à écrire avec une déficience moyenne, par exemple. Mais il y en a qui ont une déficience moyenne puis qui ont appris quand même à détecter, à reconnaître certains mots. Alors, les capacités, c'est pas un portrait, il est très variable d'une personne à l'autre.
Oui, ils ont tous le même syndrome, mais ils ont pas tous les mêmes effets secondaires? Les mêmes comportements?
Les mêmes comportements. Il y a des choses
qui sont similaires,
mais ça s'inscrit vraiment d'une façon très, très unique chez chacune des personnes. Et on peut pas prédire. Tu sais, au moment où la famille reçoit un diagnostic par le médecin peut absolument pas prédire qu'est-ce que l'enfant va être capable ou pas de faire.
Ouais.
On peut pas prédire. On peut pas dire votre enfant ne marchera jamais, ne parlera jamais. Ce n'est pas ce qu'on observe. Il y a chez certains, il y a un grand potentiel, puis d'autres, il est peut-être plus limité. Mais on peut pas dire où est-ce que l'enfant va être capable d'aller. On est souvent, comme parents, on est souvent
dans l'inconnu.
Qui sont capables de faire qu'on n'avait pas envisagé.
Oui, bien, ça permet d'espérer.
Ah, absolument. Ouais. C'est certain.
Et en terminant, Mme Dupuis, où en est la recherche en quelques phrases?
Oui, en quelques phrases. Bien, il y a de la recherche qui se fait, des essais cliniques avec des molécules qui existent déjà. Par exemple, à Sainte-Justine, il y a une étude sur le metformin, qui est un médicament pour le cholestérol. Au CHU, à Sherbrooke, il va en avoir un essai clinique sur le cannabidiol, qui est un dérivé du cannabis. Et il y a d'autres choses au niveau international. Il y a beaucoup de recherches qui se fait par rapport au syndrome du X fragile.
C'est encourageant.
Oui. Ben, sur le long terme.
Oui, c'est ça. Alors, Élisabeth Dupuis, présidente de l'association X fragile Québec, un grand merci d'avoir été avec nous pour démystifier le syndrome X fragile. Si on veut avoir plus d'informations, est-ce que vous avez un site Internet à nous conseiller?
Oui, Association X Fragile Québec. Vous pouvez faire ça dans votre navigateur, puis vous allez être en mesure d'être redirigé.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.